le lecteur, du moins le lecteur sensible, confère un petit pouvoir au romancier, celui de déterminer en partie quelle sera la nature de ses humeurs, de son moral, lorsque le livre sera refermé au terme de sa lecture. Le même pouvoir est conféré par le spectateur ou scénariste au réalisateur d'un film. Pour les auteurs comme moi, dont le lectorat est plutôt confidentiel, ce n'est guère suivi de conséquences. Mais cela n'enlève pas la nécessité de se poser la question: avec quel sentiment le lecteur quittera-t-il les pages que j'ai écrites? Je me la pose donc, cette question, et tente d'y apporter réponse dans chaque livre par diverses stratégies d'écriture. Je me la pose d'autant plus que je fais partie de ceux qui ont la larme prompte, facile à couler, plus ou moins durablement après un livre, un film ou un récit entendu de vive voix. Peut-être d'ailleurs aurais-je dû choisir un autre genre littéraire, visé à être édité par les éditions Harlequin. Dans le polar, il y a presque invariablement un meurtre fondateur ou une suspicion de meurtre, du sang, le moins possible chez moi, des éplorés, un ou des victimes, un ou des criminels. Ces stratégies ou artifices d'écriture, ce sera mon fil rouge ce soir, que je vais illustrer par la lecture de trois nouvelles assez courtes, parmi les plus courtes, et tirées donc de ce nouveau recueil « Jour et contre-jour » de Victor Auboy. Les données sont un peu plus simples lorsqu'il est question de nouvelles, puisque chacune d'elles peut avoir un esprit, une humeur spécifique. L'auteur peut jouer de leur alternance. C'est surtout par la dernière ou les deux dernières du recueil que la question prend de l'acuité. Triste retour, ou les stripteaseuses, celle par laquelle je vais commencer ma lecture, est la première du livre, et franchement, elle n'est pas vraiment joyeuse. Cela aurait dû être un jour comme les autres, et cela débuta normalement. À 6h15, le camion en gros man, aux couleurs de l'entreprise, quittait le siège principal pour monter dans la vallée où se trouvait le chantier. Une vingtaine d'ouvriers étaient serrés à l'arrière sur le pont, sous une bâche qui les protégeait de la pluie ou du soleil, pas du froid, ni de la chaleur. 7h, début du travail jusqu'à midi. C'était un mardi ou un mercredi, il n'y avait pas la résignation du lundi, pas encore l'excitation du vendredi, palpable déjà le jeudi. Assis sur la banquette, inconfortable, mais on s'en foutait. Il y avait Luigi, Paolo, Mario, d'autres, et Piccione. Piccione en abrusien, c'était le boute-en-train. On lui tapait sur les épaules, on lui pinçait les couilles, le traitait avec tendresse de nabo. Il devait faire rire, il le faisait. Un matin normal, le temps n'était ni trop chaud ni trop froid, un temps normal, de juillet à 1000 mètres d'altitude. Le chantier en était encore aux grosses œuvres, s'y agitait la fourmilière des maçons, ouvriers et manœuvres. Pas encore ou peu les spécialistes de l'électricité et des sanitaires, en général des Suisses ou des frontaliers. On était entre Italiens auxquels se mêlaient quelques Espagnols et deux ou trois étudiants habitant la ville proche et de familles peu argentées. La pause fut normale, courte, comme d'habitude. Quelques-uns parlaient d'un prochain week-end électoral au pays. Ceux du Nord descendraient pour voter. Le consulat payait le billet de train. Ceux du Sud hésitaient. Près de 2 fois 15 heures, voire davantage, compressés dans un compartiment de wagon, pour quelques heures passées en famille. Les hommes qui avaient femme et enfants étaient décidés, eux iraient sécher des larmes, en faire naître de nouvelles. Foutu statut de saisonnier, 9 mois chaque année de séparation familiale. Les petits, on les reconnaissait à peine au retour, et eux ne reconnaissaient pas ce père si souvent absent. Les grands mistonnaient, c'était avant les compagnies low cost, avant les Natel. 3 minutes de téléphone depuis la Suisse coûtaient 1 heure de travail. À midi, ce fut encore normal. 60 minutes pour manger, là c'était agréable. Un contrat avec le maître de l'ouvrage, tenancier du bistrot voisin, avait pour conséquence que tout le monde y mangeait dans une salle attenante. Et c'était plutôt bon. Les deux serveuses s'étaient carapacées, 2 adolescentes étonnamment matures, suisses-allemandes, qui passaient une année chez les Welsh. Une petite énergique, l'autre grande, avec des gros seins. Entre l'indignation et la soumission, elles avaient choisi une forme de tolérance face au regard concupiscent, aux gestes ou invitations explicites. On vous comprend, homme à la solitude imposée, mais ne franchissez pas certaines limites. Elles avaient le sourire complaisant, la grande se laissait parfois peloter, à sa manière une sainte qui apaisait les solitudes morbides. Luigi profitait d'explications improvisées sur la langue française que, à sa demande, Jérôme, en étudiant, dispensait. Parfois, ce dernier traçait sur un tas de sable, tableau noir improvisé, une orthographe compliquée. Luigi lui rappelait sa chance, celle que lui, natif des campagnes des Pouilles, n'avait pas eue. Étudier, choisir son métier. Il voulait parler français, mais quand? 10 heures par jour au travail avec des compatriotes. Le soir au baraquement, le repas partagé avec ses mêmes collègues. Un ghetto, disait-il. Y compris les week-ends passés autour de terrains de foot à voir des équipes de ligues inférieures et formées d'Italiens ou dans des cantines des bistrots tenus encore par des ritales. De temps en temps, un porno, dont le niveau de langage n'est pas forcément le point fort. L'étudiant comprenait-il sa chance? Paolo parlait de l'usine de chaussures qui allait s'ouvrir au village en Campanie. L'embaucherait-on? Lui qui avait 52 ans? Il l'espérait malgré un salaire qui serait très bas. La proximité des siens valait bien ce changement. Depuis quand se répondit ce qui ne fut d'abord qu'un propos furtif, une rumeur? Ce devait être vers 13h15, juste après la reprise du travail. Il y a eu un accident sur le chantier du tunnel du train à l'entrée du village. Mais il paraît qu'il y a juste un blessé. L'inquiétude avait été allumée par le conducteur d'un camion qui livrait des fers à béton. Une inquiétude contenue, juste un blessé. Inquiétude quand même sournoise, qui grandissait au fur et à mesure des livraisons par les nouvelles qu'apportaient les chauffeurs qui passaient dans la région d'une construction à l'autre. Tous les hommes ici avaient pour le moins un frère, un cousin ou un ami du même village qui bossait au tunnel, en gros ouvrage. La pause de l'après-midi fut calme alors que d'habitude, le beau temps et les bières ingurgitées faisaient monter les décibels et la bonne humeur. Personne n'évoquait le blessé, comme si en parler risquait d'ajouter de la gravité aux blessures, pour l'heure indéfinie. Mais toutes les pensées convergeaient vers les deux mêmes questions. C'est qui? Et est-ce vraiment une simple blessure? Fin de la pause. Ultime répit. Crescendo de mauvaises nouvelles que chaque arrivée d'un véhicule qui nourrissait le chantier faisait redouter et confirmait. Une fouille profonde mal étayée s'est éboulée. Un homme n'a pas réussi à éviter les mètres cubes de gravats. Enseveli vivant, dégagé, après plus de 15 minutes, il y a eu l'ambulance. Le blessé était salement amoché. On attend des nouvelles de l'hôpital. Il y a peu de chances qu'il s'en sorte. Inconscient, paraît-il déjà, lorsque déterré. Mais ce n'est pas confirmé. Il y a un espoir. Ces dernières paroles émanaient d'un livreur jurassien, un long sexe sexagénaire, généralement avare de phrases, d'ailleurs surnommé le ténébreux par les francophones. Il y a un espoir. C'était dit sur un ton affectueux, celui d'un père qui voulait rassurer ses enfants inquiets. Le véhicule suivant, conduit par un menuisier qui venait prendre des mesures, permettait de connaître le nom de celui qu'on espérait encore juste blessé. C'était Giovanni. Un Sicilien que tout le monde ici connaissait, même s'il n'était de l'approche famille d'aucun. Marié l'été passé, le couple attendait une naissance pour l'automne. Giovanni ne tenait plus de devoir patienter jusqu'au week-end d'élection pour revoir la femme aimée. 17h30, une demi-heure avant la fin de la journée de travail, retour du Jurassien, le maigre. Il avait perçu l'inquiétude ambiante et s'était rendu au proche hôpital du district où son beau-frère était infirmier. Il espérait ramener une bonne nouvelle. Il n'a pu qu'annoncer la mort de Giovanni. Fracture du crâne et étouffement. On ne pleure pas sur un chantier. Ou si on pleure, c'est de l'intérieur. Seul Mario s'est effondré, mais Mario s'était insensible. Le jeune frère que tout le monde ici protégeait. Le contremaître, un bergamasque que tous respectaient, même ceux du sud, a décrété la fin du travail 20 minutes avant son terme officiel. C'était dérisoire, mais c'est rare dans la construction. Si ce n'est pour des raisons techniques. Juste avant la montée du col, qui libère la vallée, le camion a ralenti. On a écarté la bâche. Chacun a regardé sur la gauche une 50aine de mètres, le chantier du tunnel du chemin de fer. Les pelles, les pioches, les brouettes, les véhicules, tout était ordré comme en fin de chaque journée. Le lendemain, le travail reprendra à 7 heures, une journée normale. Le moteur a vrombi, le man accéléré avec lourdeur, recraché ses fumées diesel, la bâche était retombée. Pas de jeu de la mora avec ses cris joyeux et ses intimidations feintes aujourd'hui sur les banquettes. Les couilles de pitchionnet seront préservées. Silence de plomb pendant la demi-heure du trajet, chacun dans ses pensées, les mêmes sûrement pour tous. Que se diront-ils au baraquement, le soir, autour des quelques plaques de la cuisine commune, parmi les saveurs de salami du pays et de pâtes réchauffées dans l'huile d'olive? Le camion approchait de sa destination, en pleine. Pitchionnet était le seul en mesure de parler. On comptait sur lui. Ceux qui le connaissaient bien avaient deviné qu'il cherchait que dire pour apaiser les angoisses avant que les étudiants rentrent seuls chez eux, comme les permis B. Au baraquement, au moins, le groupe serait solidaire. Le regard de Pitchionnet s'efforçait d'être malicieux. Il a choisi la dérision, lui le nabo disgracieux. Il a parlé dans son patois, en des abruses. Luigi a traduit pour les étudiants les espagnols. Dans 10 jours, il y a le souper annuel de la boîte. Le patron, il m'a dit qu'il y aura les 2 stripteaseuses, les mêmes que l'année passée. Vous vous rappelez les nichons? De Dieu, elles étaient bondantes. Je les avais fourrées les 2. C'est elles qui voulaient. Le camion s'est vidé. Pendant quelques minutes, tous ont pu s'illusionner de légèreté. Les sourires n'étaient pas forcés, hormis celui de l'abrusien. Une nouvelle ou un chapitre glauque ou triste, le suivant à la suivante sera généralement plus léger. C'est le cas dans Jour et contre-jour. Castiane Fidal ou Considération réciproque. Pour la courte nouvelle suivante, intitulée Rose et Régine, j'ai écrit plusieurs versions avec des fins contrastées pour en retenir finalement une, mi-figue, mi-raisin, vous en jugerez. Rose connaissait Régine depuis l'adolescence. Régine, maintenant présidente d'un groupe de bienfaisance, dont le nom pompeux mélangeait chevalerie, noblesse et religion. Régine est faite en beau mariage. Si la beauté d'une union se mesure au blé du conjoint. Cela expliquait sa renommée locale. Elle était l'épouse de M. Luc C. Certes, C avait des défauts, parmi eux l'absence de patronyme à son patron. D'absence de particules à son patronyme, pas de chance pour une vieille famille qui avait fui 1789. Mais il disposait de l'essentiel, la fortune donc, pour la présidente dont le prénom était oublié. Il fallait en effet l'appeler Madame Luc. Régine, ça sonnait trop popu. Elle s'installa dans le manoir familial de l'époux, devint une femme d'intérieur, modèle. Ce modèle majoritaire dans les classes bourgeoises jusqu'aux années 50. On était à la fin des années 70. Qu'est-ce qui énerva Rose au point de mettre en œuvre un scénario confondant à l'égard de celle qui ne se faisait plus nommer Régine? Peut-être des rancunes qui dataient de leurs juvéniles premiers amours rivales. Plus sûrement, ce que Rose appelait une hypocrisie crasse de Madame Luc, prête à mettre en avant les bonnes œuvres et actes généreux, il l'était, du groupe caritatif, mais politiquement d'un conservatisme puant. Sur tout sujet sociétal, le couple C exhibait ses positions rétrogrades, finançait les comités qui s'attaquaient aux réformes légitimes favorables aux plus modestes. Ce qui fit déborder le vase, ce fut la votation sur la création d'un dispensaire. Ce lieu d'accueil était une urgence selon tous ceux qui connaissaient le tissu social du vallon, à la suite de l'apparition d'une nouvelle précarité dû à la fermeture de plusieurs usines. À quelques voix près, cela fut rejeté. Monsieur Luc développa là un zèle efficace, signa moult chèques en faveur des Neinsager, lesquels triomphèrent avec le slogan rebâché « La liberté individuelle, pas l'assistanat ». La liberté du loup dans la bergerie. Le même mois, un dîner de bienfaisance au prix exorbitant et au profit des enfants chiffonniers du Caire faisait l'objet d'une promotion ciblée. Le prix élevé avait l'avantage de garantir un beau bénéfice, mais également celui d'éviter la présence d'indésirables au vu des critères des organisatrices. Régine à leur tête. Cela fut connu de Rose qui cogita une réplique. Généreuse et préoccupée du sort de démunis, ces dames patronesses l'étaient. Mais elles l'étaient comme le sont ces familles américaines qui aident les Noirs d'Afrique tout en ignorant ceux paupérisés des banlieues de leur propre ville, leur refusant même jusqu'à il y a peu les droits civiques basiques. Rose conçut qu'il serait fructueux qu'à la sélecte soirée au menu gastro se joignissent des pauvres, des vrais, incarnations locales des miséreux du Caire, de Bombay ou Bogota, des précarisés, victimes du néolibéralisme juteux, gens d'ici ressemblant à ceux auxquels était destinée la générosité des invités. Il est probable que la police, la sécurité plutôt, ainsi qu'il est tendance de dire aujourd'hui, la sécurité serait appelée pour éloigner ses importuns, comme si le Christ avait l'idée indélicate de venir troubler un repas de Noël avec père et mère, voire âne et bœuf, parce que l'hospitalité leur serait refusée partout ailleurs. Ils furent 8 à débarquer à l'apéritif, conduit par Rose l'insurgée, qui eut l'honnêteté de dire que l'issue s'avéra imprévue. Sur un point, elle avait anticipé juste. Régine Ordel exigea l'exclusion manu militari des intrus, par du renfort appelé. Le but de la manœuvre pour Rose était de faire péter un câble à la chef des patronesses. C'était réussi. Mais surprise, parmi les convives, certains se rebiffèrent et demandent que l'on reçoive à table ces hôtes inattendus, ce qui advint, la majorité s'affirmant en faveur de cet accueil. Fructueux, cela le fut. Alors, une petite digression au propos de Rose et Régine. Enfin, le choix des prénoms et des noms dans un livre, c'est souvent compliqué. Surtout pour les personnages négatifs. Je me souviens d'une collègue de travail qui m'avait soufflé un magnifique prénom que je n'avais jamais entendu. Paraît-il, c'est un père de l'Église qui s'appelait Égésippe. Et ce prénom, cette consonance si particulière, allait très bien pour un personnage du roman que j'allais écrire, et j'ai nommé un personnage Égésippe, un personnage éminemment positif, mais qui malheureusement choisit le suicide dans des circonstances particulièrement délicates. Et je me souviens que ma collègue m'en a amicalement voulu, mais quelque part pour elle, Égésippe, c'était un oncle. C'était son oncle, c'était quelqu'un qu'elle avait apprécié, et voir ce personnage mourir avait été pour elle très délicat. Et c'est vrai, je crois que tous les auteurs se posent la question, comment est-ce que je vais nommer mes personnages ? Une autre chose, ça c'est plus anecdotique, dans le premier roman que j'avais écrit, il y a un salaud, d'ailleurs le titre de l'ouvrage c'est Exit le salaud, et j'avais nommé ce salaud Aloïs. Pourquoi Aloïs ? Parce que je ne connais aucun Aloïs. Et du coup, je me dis, je ne vais vexer personne. Et le livre était chez l'éditeur, il était quasi chez l'imprimeur. Et voilà qu'un couple d'amis a un petit-fils qui est prénommé Aloïs. Et vraiment, j'étais extrêmement embarrassé. J'ai juste pu téléphoner à l'éditeur qui a stoppé le livre et on a changé le prénom Aloïs, qui a été transformé, je crois, en Théo. J'espère qu'il n'y a pas de Théo dans la salle. Bref, le choix des noms et des prénoms, toujours très délicat. J'ai appris qu'il valait mieux nommer ces personnages Pierre, Paul ou Jean, parce que des Pierre, Paul ou Jean, tout le monde en connaît des quantités, des positifs ou des négatifs. S'il y a un Égésippe et que c'est un salaud, tous les Égésippes seront des salauds. À propos des chutes, j'y reviens, à propos de ces stratégies d'écriture, je n'échappe pas aux grosses ficelles. Et la chute de la nouvelle suivante va en témoigner. Elle s'intitule « Franca ». Les faits réels dont elle est tirée sont plutôt tristes. Comme moi peut-être, vous avez vécu comme enfant, pour moi c'était dans les années 60, l'arrivée des élèves étrangers. essentiellement italiens à l'époque, les premières immigrations d'après-guerre, les enfants qu'on appelle allophones aujourd'hui. Et moi, je me souviens, finalement, avec douleur, quelque part, de l'indifférence que nous avions face à ces élèves et de l'absence d'outils du corps enseignant qui étaient démunis. La plupart du temps, ils étaient quasi dans le coin de la classe et on les ignorait. Et les camarades, ceux que nous aurions dû être leurs proches, leurs amis, ont mimétisé en quelque sorte l'attitude du prof. Et du coup, j'ai essayé de placer une de ces élèves dont j'ai le souvenir dans une nouvelle. Je n'ai pas réussi à lui donner une fin négative à cette nouvelle. J'avais quelques indices sur ce qu'était devenue cette Franca. Du coup, j'ai utilisé une grosse ficelle à la fin. Je n'ai pas besoin de vous dire où commence la grosse ficelle. Vous la trouverez sans peine. Franca a existé. J'ai bien sûr placé son histoire dans un autre contexte que celui que j'ai vécu. Cela avait duré 10 jours. 10 jours durant lesquels ma sœur était hospitalisée et mon beau-frère très occupé par son travail. On avait sollicité l'oncle trentenaire que j'étais. « On a besoin de toi, Victor. » C'était pour aller rechercher les enfants à l'école à midi, les ramener pour la reprise des cours à 13h30. Le couple habitait en dehors du village. Les enfants partaient tôt, à pied le matin, pour une 20aine de minutes à pied, de marche, jusqu'au collège situé au centre du village. Comme l'église et le bistrot, où grésillaient les échos hippotins de la vie villageoise. En fin d'après-midi, retour à pied encore. Les enfants appréciaient ces trajets faits avec des camarades et durant lesquels on apprend à grandir. Durant lesquels, surtout, on a le sentiment que personne ne surveille, n'épie, ni ne risque de cafeter. Les enseignants sont restés dans l'enceinte de l'école ou se sont empressés de retourner chez eux. Les parents goûtent ces temps durant lesquels la maison est calme, mais se réjouissent aussi, dans le meilleur des cas, du retour de la rafraîchissante agitation enfantine. C'était l'époque où rares étaient les parents qui jouaient les chauffeurs de taxi 4 fois par jour. Trajet en voiture, quand même, durant la pause de midi pour mon neveu et ma nièce, car cela permettait de prendre un repas en famille. Vu l'éloignement du domicile familial, le temps eût été trop court s'il avait fallu décompter les 2 fois 20 minutes du parcours. Les agréments de ma compagnie étaient appréciés, oui, même sans compétences pédagogiques particulières. Les oncles sont souvent aimés des neveux et nièces, tontons affectueux, patients et généralement moins exigeants que les parents. Démagogues, parfois aussi. Le tonton non-flingueur compensait la frustration des enfants à la mi-journée d'être privés des copains de l'habituel trajet pédestre. Ah, ces trajets d'écoliers. Les amours, pourtant ô combien tragiques parfois à l'échelle de l'enfance. Qui s'y noue, les clans qui se font, se défont, la solidarité, les exclusions aussi, les compliments, les moqueries, les petites conneries, la civilité, comme on dit aujourd'hui, qui solidarise tout le groupe. On découvre et compose avec la justice ou la partialité des leaders. On apprend la soumission et la révolte, les rôles assignés à son sexe, pour le meilleur ou pour le pire. Pas de portable à l'époque, on s'amusait par des jeux collectifs récréatifs, durs parfois. Les plus faibles étaient mis de côté, s'ils n'avaient pas l'appui d'un frère, d'une sœur, d'un cousin, d'une cousine aînée. En hiver, les boules de neige contre les vitres de la mère Gérard. Et puis, aux 4 saisons, ce couple qui batifolait, souvent, fenêtres mal fermées et dont les ébats étaient observés et disséqués. Les enfants planqués derrière une haie, les amoureux un peu floutés par un malencontreux vitrage. Les voyeurs atteints d'une diffuse culpabilité, mais réjouis par les soupirs et les mots inconnus qui étaient tantôt murmurés, tantôt criés, les émetteurs inconscients de contribuer à l'entrée dans l'univers des adultes chez ces jeunes observateurs. Surtout ne rien dire aux parents, cela mettrait en terme à l'excitante initiation. J'avais appris son nom le 3e jour de ma tâche d'accompagnateur. Tu peux ramener la petite Franca chez elle, Victor ? Sa maman est malade, du coup elle doit préparer le repas de la famille. Il s'appelait Hubert, le questionneur. On se connaissait depuis l'enfance, il a fait sa vie au village, l'Hubert. Fils de fermier exproprié, le père dut aller travailler comme manœuvre dans la cimenterie du gros bourg voisin. Il s'y rendait à vélo par tous les temps. Hubert enfant, alors élève dans l'unique classe d'un petit établissement au cœur du hameau, de la périphérie, études pédagogiques au chef-lieu, titulaire de sa première classe à 21 ans. J'ai lu un article l'an dernier dans la Gazette du coin avec photo qui célébrait son entrée en retraite après 44 ans d'enseignement ici et 8 au préalable comme potage dans ce petit collège de la commune fermé depuis lors. Un fidèle, bon type et compétent Hubert. Il était précisé qu'il s'occuperait dorénavant bénévolement d'y devoir surveiller des élèves en difficulté. J'avais donc conduit Franca chez elle, avec mon neveu et ma nièce. Fus surpris du silence qui régnait dans la voiture. 3 enfants complices. En général, ça donne lieu à une joyeuse animation. Elle habitait en des rares modestes blocs du village, Franca. Une habitation triste, isolée, égayée seulement par le potager cultivé par les saisonniers et ouvriers du sud qui habitaient dans cette sorte de petit ghetto. Pas de fleurs cultivées, pourtant, mais des végétaux alimentaires. Son père était maçon chez un entrepreneur local. Il y avait 4 enfants dans la famille, un aîné de Franca, 2 petits, pas encore scolarisés. Sa tristesse m'a surpris, d'abord, puis obsédé. Elle venait de la région de Bologne, appris par Hubert. Hubert, rare citoyen de la commune qui encadrait cette famille, remplissait ses formalités administratives, tentait sans succès de créer des contacts avec les autres. Le curé aussi se démenait pour générer des solidarités autres que la sienne. Les Donadietti, ce n'étaient que des étrangers au village. J'ai imaginé l'itinéraire de Franca, née dans les campagnes d'Émilie-Romagne, enfant alors ni heureuse ni malheureuse, le chômage, la précarité de tous au village transalpin, l'exil au nord des Alpes, la rupture avec un quotidien rassurant, malgré la pauvreté, la désinvolture de ce qu'aurait dû être un village d'accueil, les parents avec les 4 enfants qui faisaient ce qu'ils pouvaient avec de dérisoires ressources. Et l'Hubert, îlot d'humanité dans cet océan d'indifférence, Hubert à qui je n'avais même pas songé à proposer mon aide dans ses engagements sociaux. Chaque jour, c'est culpabilisé mais inactif que j'observais Franca, isolé, triste avec ses copains et copines, qui contribuent à faire de l'enfance une période dont on aura plus tard la nostalgie. Mon neveu, ma nièce confirmaient lorsque je les interrogeais. Ni pire, ni meilleur que les autres. Ah ouais, Franca, l'italienne, ben, on la voit pas souvent, elle joue pas avec nous. Bon, il y a son frère, c'est le meilleur à la gym et à Balkan, le Pietro. Il a cassé la gueule au Jeannot qui avait embêté la frangine. Hubert, il a dit qu'il avait bien cherché. Cela au moins. Franca, en plus d'Hubert, avait un protecteur respecté. Aurais-je dû insister? Mais vous, vous l'invitez à jouer? Pourquoi elle ne viendrait pas une fois manger à la maison comme d'autres camarades? Paresseux et lâche, j'avais renoncé. Bien que légèrement empotée, Franca aurait pu être belle, comme la plupart des enfants, si la tristesse n'imprégnait pas en permanence son visage d'une expression qui entraînait presque une répulsion chez les autres, un peu comme les dépressifs. J'avais repéré 2 signes physiques distinctifs chez elle, par chance pas du tout en les disant. Un écartement inhabituel entre ses 2 incisives supérieures, les dents de la chance, dit-on, et ce qui devait être une légère cicatrice au début de l'arrêt central de ses cheveux foncés et denses et qui donne à l'arrêt sur 2 cm une largeur inhabituelle de 3 mm. Plaisant signe particulier. Et puis, chance encore, comme souvent dans les familles italiennes, les parents soignaient l'apparence, l'habillement donc de Pietro, Franca et des 2 petits. Les années ont passé. J'ai revu Franca, régulièrement, incognito, sans pouvoir jusqu'à l'été dernier me dépêtrer de ma culpabilité justifiée. D'abord, elle devait avoir 15 ou 16 ans au terme de sa scolarité obligatoire, si j'en crois les niveaux scolaires d'alors de mes nièces. Une vilaine blouse bleue, l'air toujours accablé, accroupie, elle alimentait les rayons en supermarché du chef-lieu, poussée par les commentaires peu amènes de 2 vendeuses acariâtres. J'aurais aimé l'aborder, la défendre, mais pour dire quoi? L'acheter encore, excusable cette fois peut-être. 6 ou 7 ans plus tard, ce fut enfin d'une journée printanière dans un parc public, entouré de 3 jeunes enfants, les siens, la mine plutôt triste encore, fatiguée mais patiente, et gentille avec les petits. La chevelure dense, toujours avec le duo d'espace incongru et plaisant, entre les incisives et les 2 côtés de l'arrêt central des cheveux. Un homme l'avait rejointe en habit blanc, d'un peintre en bâtiment, en double mètre de bois dépassant de sa poche, frisé et noirauds, comme ceux du sud, l'homme, il donnait l'impression de s'aimer, ces deux, parlait italien. Ma dernière rencontre, même si elle fut indirecte, date d'il y a 8 mois. Heureuse rencontre. L'amour furtif d'un été pour une femme m'avait conduit 2 semaines sur les pages de Ravenne, en Émilie-Romagne. Le désir que j'éprouvais pour Rosalba, belle et très désirable femme romaine, justifiait en encanaillement dans des lieux transpirants de touristes auxquels je m'assimilais, ma foi sans peine. Escapade amoureuse, qu'elle et moi savions sans le lendemain. Elle l'avait décrété sans ambiguïté. Cela m'arrangeait. Ravenne. Fin d'après-midi. Un vendredi. La présence et le corps désirable de Rosalba, douceur indolente, frisante et antipasti, et exposée sur le bar, la première page du second cahier de l'édition locale du jour d'un quotidien de la péninsule. Une grande photo, couleur, me harponne sur ce papier pas glacé. Grande photo d'une belle femme à la maturité rayonnante, et je reconnais grâce aux 2 espaces anatomiques, ceux de Franca bien sûr. Je confie ma stupéfaction, interroge Rosalba. Amusant il me semble. Tu peux me traduire cet article? Je vous ai parlé d'une grosse ficelle. Hein. Bien sûr, elle accepte. Il est question de la lauréate d'une super loterie européenne. Franca. Franca revenu au pays avec son mari Luigi après 40 ans passés en Suisse, où ses 3 enfants sont installés. Gagnante de 6,5 millions d'euros. Elle évoque ses projets. Gâter ses parents, les enfants, les petits-enfants. Prendre des vacances, enfin, avec son mari. Et construire une maison dans le village de la petite enfance. Ah, 2 choses encore lui tiennent à cœur. Elle va financer la rénovation d'un ermitage en ruine dans le village. C'est là que sa grand-mère venait puiser la foi et l'espérance qu'il habitait, qui l'aidait à affronter la misère de la famille. Et puis, elle a invité un homme à passer 15 jours à l'hôtel avec son épouse. Ce sera un peu plus au sud, à Assise. Elle et son mari rejoindront le couple, des Helvètes. Lui fut son maître d'école alors qu'elle avait 9 ans. L'article cite Franca. Un homme qui a toujours entouré ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, sitôt notre arrivée en Suisse. Il se prénomme Hubert. Son frère, Pietro D, est gestionnaire de fortune, reconnu dans une grande banque italo-tessinoise. C'est lui qui gérera le capital de Franca. Pietro qui saura la mettre à l'abri, des requins qui émergent dans l'entourage des lauréats Vénard, d'une loterie au gros gain. Rosalba me trouve d'excellente humeur, elle l'est aussi. Je crois qu'on va rentrer tout de suite à l'hôtel Victor. On ressortira plus tard, me dit-elle, complice et très expressive de ses intentions. Elle ajoute souriante qu'un auteur très observateur et philosophe a dit que l'argent ne fait pas le bonheur des riches. Elle prédit et souhaite des années d'enchantement à Luigi, à Franca, à leur famille. Je tais la cause de mon ravissement soudain, je tais le fait que Franca est une intime, en quelque sorte. Merci.